Corps, amour, sexualité. Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et oui, ben c'est bien Calibre, hein, puisque nous sommes le jeudi soir à 20h en direct sur Radio Kaléidoscope 97 FM sur vos petits postes radio qui existent encore et partout sur Internet. Hein.
Voilà, ben on peut peut-être rappeler l'adresse Internet si vous captez mal de votre radio.
Ouais.
C'est 3... Non, il n'y a pas 3W, c'est Calibre, cas-libre.poivron.org. Et voilà, vous pouvez nous écouter en direct de notre site.
Voilà.
Et alors, ben, c'est Calibre.
Ou peut-être du site de Radio Kaléidoscope, parce que moi, la dernière fois que j'ai essayé d'écouter sur notre site, ça a bugué au bout de 5 minutes. Donc, si jamais ça vous arrive, rapatriez-vous sur le flux de Kaléidoscope. Je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment. Internet fait des caprices.
Ok, ok. Bon, ben, on peut dire un peu ce qu'est Calibre rapidement. Calibre, c'est une libre antenne. Ça veut dire que ben, nous, on discute et puis vous pouvez nous appeler pour discuter avec nous, pour nous raconter des trucs, nous poser des questions sur les questions de relations, de corps, de sexualité.
Oui, d'amour d'affection, d'amitié, de tout, quoi.
Voilà. Et bah voilà, peut-être on peut rappeler quand même le numéro de téléphone, parce qu'il était dans le jingle, mais on n'a pas toujours l'occasion de le noter. C'est le 04 76 09 09 09.
Voilà.
Et bah alors, juste pour vous présenter qui c'est qui parle ce soir un peu au micro et tout ça, bah, c'est Mimi et Mélanie. Et à la technique, c'est Maud et Émilie, quoi.
Voilà, une belle équipe, encore une fois. Bon, allez, j'arrête. Oui, alors, cet après-midi, là, avant de descendre, j'ai vu que sur notre boîte mail, on a reçu un long mail d'une auditrice fidèle et avec qui on a des échanges passionnants. Et en fait, je ne l'ai pas pris parce que, pour ce soir, ce que je me suis dit, que sur une réponse de mail, on voulait avoir un peu de recul, de réfléchir à toutes ces questions et ces témoignages qui sont abordés. Du coup, on fera passer à l'équipe suivante. Mais néanmoins, si tu as envie de nous appeler ce soir pour discuter de ces sujets ou d'autres, on peut le faire quand même, quoi. On n'a pas forcément lu ton mail. Mais si tu as la motive ce soir pour appeler, chère auditrice, tu peux le faire et on discutera de ce que tu auras envie d'aborder ce soir. Voilà.
Alors, peut-être avant de s'écouter une petite musique pour vous laisser le temps d'appeler, on va peut-être vous annoncer un peu... On va vous poser la fameuse question
la
du
question
quiz.
La question quiz.
Oui, parce que maintenant, on fait des quiz. C'est super, on s'amuse beaucoup. Et du coup, Mimi, c'est quoi la question du quiz?
Alors, attention, roulement de tambour. Que signifie, ou plutôt d'où vient le G, la lettre, dans l'expression le point G? Donc le point G, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en tout cas, on expliquera plus tard. Et pourquoi le point G ?
D'où vient pas le point P ou le point R ou le point Q ou le point...
Noir ou le point...
Le point noir. Le rond-point.
Le rond-point.
Bref, voilà, appelez-nous et puis comme ça, on pourra discuter de ça et puis du point G aussi.
Absolument. On s'écoute un morceau, hein, peut-être pour démarrer tranquillement. Donc, c'est The Runaways et c'est Queens of Noise.
I can warm you up if you get too cold. I can bring you up if you're going.
Roselyne Bachelot a déclaré être favorable à la pénalisation du client que la loi ne permet pas actuellement de poursuivre. Je veux le dire sans ambiguïté, a-t-elle déclaré, contrairement à ce que d'aucuns voudraient nous faire croire, il n'existe pas de prostitution libre, choisie ou consentante. L'achat d'un acte sexuel correspond à la mise à disposition du corps des femmes pour les hommes, indépendamment du désir de celles-ci. Donc vous êtes bien sur Calibre et on reprend, on parlera un peu du point G plus tard, mais là on avait envie de repartir de cette déclaration de Roselyne Bachelot qui nous pose beaucoup de problèmes.
Et du coup de parler plus globalement un peu de prostitution.
Voilà.
Et en plus on a un appel. Et je crois que c'est à ce sujet d'ailleurs. C'est Laura. Bonsoir Laura.
Bonsoir à toutes.
Salut.
Oui, moi je voulais passer un rapide mot pour... dire que le 18 mars dernier, oulala, je suis toute intimidée.
t'inquiète, c'est bon enfant ce soir.
Non mais du coup oui, c'est ça que le 18 mars dernier, il y a eu à Lyon les assises de la prostitution.
Mm-hmm. Ouais.
Qui sont des moments assez précieux et rares là, de mobilisation collective de personnes prostituées ou travailleuses du sexe.
Ouais.
Et donc pour une fois c'était l'occasion que ce soit elles qui soient à la tribune, elles et eux aussi. Qui soit à la tribune pour parler de c'est quoi leur réalité dans leur travail. Et il y avait des personnes qui venaient de toute la France et de Suisse aussi.
Mm-hmm.
Donc voilà, donc oui, évidemment, la crainte de cette loi de pénalisation des clients était, a été beaucoup discutée.
Mm-hmm. Et c'était quoi la crainte alors du coup qu'est-ce que ça a suscité Quels étaient les risques selon les personnes travaillant dans le sexe?
Ben pour elles, évidemment, c'est assez, c'est une loi de plus pour les empêcher d'exercer tranquillement. Puis elles demandent qu'une chose, c'est qu'on les laisse tranquilles.
Du coup, quand Roselyne Bachelot, elle dit, il n'existe pas de prostitution. Comment elle dit,
Il n'existe pas de prostitution libre, choisie ou consentante.
Oui, ben oui, c'est un peu le discours qu'on entend souvent. Et en plus, c'est déjà, c'est extrêmement faux, parce qu'il y a des personnes qui choisissent librement et qui sont absolument consentantes. Mmh. Et en plus, c'est aussi un peu, je sais pas comment dire, mais une question qu'on pose que par rapport à la prostitution, et c'est une question qui est vraiment morale. Parce qu'on on pose pas si souvent que ça la question du choix au sein, dans le travail en général.
Oui. Ouais. C'est vrai que moi, ça me rappelle un petit passage du bouquin de Virginie Despentes, King Kong Theory, où elle repart de ça, justement, et elle dit, oui, bon, effectivement, c'est un travail choisi, autant qu'on peut choisir un travail, c'est-à-dire qu'on préférait ne pas avoir à travailler. C'est comme, elle dit, c'est comme la nana qui bosse à Yves Rocher, c'est pas par vocation qu'elle sort les points noirs et elle étale de la cire, quoi.
Oui, c'est ça, on peut se demander un petit peu pourquoi précisément sur ce sujet on entend toujours un petit peu les mêmes choses de les personnes sont pas libres, contraintes, etc. Mmh. Et oui, c'est vrai que quand on creuse un peu, c'est vraiment des considérations morales, parce que parfois même quand des femmes vont dire mais si vraiment on choisit, laissez-nous tranquille, on veut faire on a un boulot et on veut faire celui-là et voilà. Et ben ensuite, il y a même des courants qui vont dire qu'elles ne sont même pas... qui vont décrédibiliser cette parole-là en disant « Oui, mais peut-être qu'elles ont l'impression de... » Enfin oui, c'est vraiment fou, en fait, ce qu'elles subissent. Et je pense que ce qui est compliqué, c'est que... Ce qui est, je pense, vraiment dur dans cette activité, c'est le stigmate qu'il peut y avoir, mm-hmm. fait que ce soit mal perçu. Mm-hmm. Et qu'il y a peu de personnes qui ont, c'est vrai, envie de s'afficher à la télévision, dans les médias, etc., pour avoir une parole publique et politique, et que du coup, ça rend la mobilisation compliquée. Et que c'est vrai que c'est souvent ça qui peut vraiment créer un rapport de force ou changer les idées, c'est quand les personnes, elles s'expriment directement. Et que là, c'est vrai que pour beaucoup de femmes, le fait d'être anonyme, c'est quelque chose de vraiment important. Et par exemple, pendant les assises de la prostitution, donc qui ont eu lieu toute la journée, c'était vraiment hyper important de dire « vous inquiétez pas, il n'y a pas de médias dans la salle, personne ne va prendre des photos. Si on enregistre, c'est pour ensuite faire les actes des assises, mais ça reste entre nous et on ne va pas entendre vos voix à la radio. » Et voilà, sauf au moment de la conférence de presse qui est entre 16h et 17h. Et à ce moment-là, on vous prévient bien en avance. Celles qui veulent partir, elles peuvent partir. Et c'est toujours des précautions comme ça qui sont vraiment importantes. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui fait que c'est compliqué après que quand elles entendent des choses qui leur correspondent pas, de les contrer. Mmh. Et voilà.
Parce que c'est quoi dans leur... C'est quoi pour elles la peur ou le fait qu'elles ne veuillent pas être montées publiquement? C'est une histoire de gens qu'elles connaissent, qui pourraient
oui,
les reconnaître?
Oui, c'est auprès de leurs proches, de leur, je sais pas, leur vie sociale en général. Mm-hmm. C'est quand même l'insulte la plus courante, j'ai l'impression, en France. Ben, c'est ça, moi, je sais pas, j'ai le souvenir d'une réaction d'une femme qui disait « Ah oui », et puis après, mon neveu, il va dire « Ah, viens voir, il y a Tata à la télé qui manifeste ouais. » Tout ça, elles sont pas, elles ont pas forcément... envie de ça. Bah, parfois, il y a des proches qui sont au courant, mais c'est pas évident que ce soit...
Que ça le soit, ouais.
Ouais.
Et il me semble...
Même, ouais.
Et il me semble que le lendemain des assises, il y a eu une manifestation.
Ouais.
Donc, qu'on appelle la pute pride, c'est ça?
La fierté, du coup.
Du coup, là, c'est un peu un moment qui contrecarre ce stigmate qui cherche un peu à... Enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi? Comment ça s'est passé?
Ah oui, c'est super. Bah, c'est toujours des moments vraiment importants, là, les manifestations. Bah, justement, pour les personnes qui veulent faire un peu attention, elles mettent souvent des masques blancs. Mmh. Mais il y a aussi quand même des personnes qui veulent quand même bien manifester, etc. Mmh, mais c'est pas évident de... Enfin, en plus, il y a toujours le côté un peu sensationnaliste. Et c'est vrai que les journalistes, ils sont pas forcément les plus fins non plus.
Oui.
Voilà, et mais par contre, il y a quand même un gros aussi, un syndicat qui s'est créé aux assises il y a 2 ans,
mm-hmm.
qui s'appelle le STRAS,
ouais.
Le syndicat du travail sexuel. Et voilà, et qui est l'occasion justement d'être une parole politique.
Mm-hmm. Puis comme tu dis, parce que là on parle de prostitution, on parle de travail du sexe et tout ça, et je crois que c'est important à un moment donné de faire la différence, de montrer que, enfin, de parler de travailleurs du sexe, de travail du sexe et du coup de syndicat, c'est de montrer qu'effectivement c'est un travail et que c'est pas une tare ou c'est pas...
Ouais, c'est un métier, quoi.
C'est un métier, puis que aussi l'intérêt c'est de justement, on parle... que l'intérêt c'est d'avoir accès aux droits du travail et aux droits communs.
Parce que là, c'est quoi les droits aujourd'hui que peuvent avoir les prostituées?
C'est un peu relatif à chaque situation, parce qu'après il y a des, je sais pas comment dire, des stratégies.
Mm-hmm.
Mais c'est pas forcément évident pour plein de démarches d'avoir accès au logement, d'avoir accès, il n'y a pas de fiche de paye par exemple, donc ouais. D'avoir accès pour un prêt. À la banque ou des choses comme ça. Et après, pour la sécurité sociale aussi, il n'y a pas de cotisation ni pour la... En fait, elles doivent payer des impôts,
ouais.
Mais ça ne leur ouvre pas les droits sociaux.
Ah ouais, c'est-à-dire elles payent des impôts, elles payent des impôts sur quoi? Parce qu'elles doivent déclarer du coup ce qu'elles font?
Voilà, elles doivent déclarer leurs revenus. Du coup, je crois qu'il y a quelques... Enfin, mais ça ne leur apporte rien. En termes de droits sociaux.
Ouais.
C'est juste comme il y a des rentrées d'argent, il faut le déclarer aux impôts. Mais...
Donc juste l'État prélève une partie de l'argent qu'ils se sont fait avec les activités, quoi.
Ouais, c'était un peu un des slogans justement de la manifestation qui était l'État proxénète.
Oui, qu'en fait, c'est surtout l'État qui retire des bénéfices du travail des prostituées plus que, plus que ça fait partie des proxénètes, quoi.
Ouais, parce que elles sont vraiment super embêtées par la loi contre le proxénétisme, qui est une loi qui est en fait un peu, qui est complètement discriminante parce qu'elle lutte pas contre des choses concrètes. Enfin, elle lutte, la manière même dont c'est formulé, ça concerne en fait des personnes et toutes les personnes qui seraient en lien avec des personnes prostituées. Donc que ce soit pour les aider ou pour les exploiter, ça appelait du proxénétisme.
Ouais, ça s'appelle même, je crois, du proxénétisme de soutien. Après,
c'est le stress qui tient vraiment à ce qu'on différencie une sorte de proxénétisme de soutien puis un proxénétisme de contrainte.
Mm-hmm.
Parce que c'est ça qui fait que, par exemple, pour beaucoup de personnes, c'est pas possible de louer un appartement pour travailler dans l'appartement, parce que sinon le propriétaire de l'appartement serait considéré comme proxénète, même si le prix auquel elle le louerait serait pas abusif. Enfin, je veux dire, au même prix que n'importe qui, ou comme elles travaillent aussi des fois en camionnette, elles n'ont pas le droit de se prêter une camionnette l'une à l'autre. Il faut qu'elles soient toutes propriétaires de leur camionnette, sinon la propriétaire peut être taxée de proxénétisme. Si elles n'ont pas le permis et que justement il y a un copain à elles ou quelqu'un qui va leur amener leur camionnette d'un endroit à un autre, et ben il est aussi menacé par cette loi. En fait, n'importe si elles voulaient faire une maison close autogérée, c'est pas possible parce qu'elles peuvent pas ensemble. Oui, c'est ça. Du coup, même sur plein de liens de solidarité, ça rend les choses très compliquées.
Mais même le syndicat.
La seule personne, du coup, qui peut le seul enfin, il y a que l'État qui peut en fait légalement prendre leur argent.
Parce que même le syndicat, le STRAS, j'ai lu qu'ils étaient en fait sous le coup d'une loi de 1946 qui n'est pas abrogée et qui interdit toute alliance, toute association entre prostituées ou travailleuses du sexe, quoi. C'est-à-dire ça s'appelle proxénétisme réciproque ou mutuel, je sais pas quoi, et que du coup, en fait, même entre elles, elles peuvent pas. C'est pas que quelqu'un qui sera extérieur, quoi. C'est toute initiative de solidarité, quoi.
Donc voilà, donc il y a déjà cette loi-là, la loi contre le racolage même passif, donc ça c'est aussi une sorte de loi qui laisse l'arbitraire policier, quoi. Comme ça la police dit, ah ben tiens, cette personne-là, on veut l'arrêter, ben on a la loi contre le racolage passif sous le coude, on peut l'arrêter.
D'ailleurs, ça concerne beaucoup les migrantes, non, en fait, qui sont arrêtées sous cette loi-là.
Du coup, ça fait un bon prétexte pour arrêter les femmes étrangères.
Ouais.
Et la loi contre la traite aussi, c'est un peu pareil que la loi contre le proxénétisme, ça concerne un peu tout le monde. Et du coup, ça fait un bon prétexte pour lutter contre l'immigration économique des femmes, en gros.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait, le danger principal qui pèse sur les travailleuses et les travailleurs du sexe, c'est bien l'illégalité, quoi, qui les condamne à se cacher. Elles et ils se tapent des descentes de police qui peuvent des fois être violentes, en tout cas qui leur prennent les camionnettes et qui doivent payer des amendes.
Oui, puis c'est un peu la même chose qui peut se passer avec la pénalisation des clients, où ça les pousserait à être plus clandestines ou et du coup être plus précaires ou avoir moins de clients et du coup devoir prendre plus de risques pour pouvoir en avoir. En tout cas, ça les ferait pas sortir du travail du sexe pour autant, quoi, pénaliser les clients.
Non. Et oui, c'est vrai que ça augmente beaucoup les risques. Bah justement, tous les temps en plus qui sont importants de jauger le client là avant de l'accepter comme client, en fait. Et bien, c'est vrai que ça risque d'être compromis tous ces moments-là. Oui, c'est complètement hypocrite, en fait.
Oui, puis enfin, même c'est encore plus dangereux, quoi. Enfin, alors quand on dit que c'est pour le bien-être de ces pauvres femmes victimes, enfin. C'est même plus dangereux pour elle, en fait. Du coup, moi, je trouve que c'est hallucinant parce que, déjà, que ce discours de victimisation, il est problématique parce qu'effectivement, il existe une prostitution choisie et que c'est leur choix de préférer de faire ça que d'aller à l'usine et qu'il n'y a pas de. Il y a pas d'avis à avoir sur la question, quoi. C'est leur choix. Mais en plus, là, ce type de loi, ça les met vraiment dans des situations difficiles, quoi.
Moi, je trouve même de manière générale, la meilleure manière de lutter contre l'exploitation, c'est quand même plutôt de donner des droits. C'est-à-dire, imaginons même pour les personnes qui sont dans des situations justement de vulnérabilité, d'une part parce que ce sont des femmes et d'autre part des fois parce qu'elles sont étrangères, du coup qu'elles ont dû avoir affaire à des gens pour pouvoir voyager, des fois des passeurs et puis ou n'importe, et bien souvent après pour avoir plus d'autonomie, que ce soit à l'intérieur du travail du sexe, de la prostitution ou dans autre chose. Et ben c'est vrai que c'est plus en ayant des droits, des titres de séjour, des autorisations de travail, ou même à l'intérieur du travail du sexe, c'est vrai, des droits liés aux droits du travail en général, qui font que les femmes se porteront mieux, ils seront plus autonomes et auront plus justement de possibilités de choix dans la vie, etc. Quoi.
Sauf que les choix politiques, c'est les contraires, quoi.
Complètement hypocrite, ouais.
Bah, peut-être que effectivement ça relève plus de, enfin finalement quelque part ces femmes, je dis ces femmes parce que c'est une majeure partie des femmes qui prennent leur autonomie et qui décident d'avoir cette autonomie financière et de pouvoir négocier sur un service sexuel, et ben en fait ça dérange quoi, parce que c'est et une conception morale de la sexualité comme tu disais tout à l'heure, et en même temps finalement des choses qui peuvent se passer, enfin je pense au devoir conjugal qui a été aboli il y a pas si longtemps que ça. Enfin, ou de la sexualité non consentie, il y en a dans plein de couples et tout ça. Là, à partir du moment où une personne elle décide de tarifer des actes, de machin, bah, là,
et ça... de mettre les limites qu'elle veut, c'est-à-dire de dire oui, ça j'accepte, mais ça j'accepte pas. Mmh. Et ça, c'est que, enfin, quelque part, c'est pas que une professionnelle qui peut le faire, mais en tout cas, a plus la légitimité de poser les limites que dans les relations censées se faire par magie, par amour. Bah, vas-y, pour imposer tes limites, c'est beaucoup plus compliqué, quoi.
Ouais, et aussi avec là, je pense, toutes les histoires de pénalisation des clients, je pense qu'en plus, là, c'est vraiment une question de classe sociale. Enfin, c'est doublement hypocrite parce que ça, à chaque fois, toutes les lois qui criminalisent et tout ça, ça touche plus les personnes qui sont dans la rue.
Et que là, les clients qui sont dans la rue, voilà, c'est aussi, c'est ça que tu veux sous-entendre, que c'est des... Enfin, autant les clients que les prostituées qui sont dans la rue vont être plus pénalisées par cette loi que par d'autres formes de prostitution qui se passent hors de la rue. C'est ça que tu voulais dire ?
Oui, c'est ça. C'est que de toute manière, je pense, des échanges économico-sexuels, là, comme on peut dire, des échanges de sexe contre de l'argent et tout ça, il y en a dans... Ben, que ce soit de la prostitution clairement dite ou alors des fois c'est sous d'autres formes, etc. Ça existe vraiment dans plein de milieux et sous plein de formes. Et que là, c'est vrai que celle qui tend à être criminalisée, c'est celle qui concerne, oui, voilà, bah plutôt les femmes et qui, enfin les femmes et les trans et les hommes qui travaillent dans la rue, et aussi du coup là potentiellement les clients de rue qui sont pas les, et que ça va, je pense, c'est les gens qui sont plus dans les hautes sphères sociales avec un service plus de luxe, etc. Vont être moins, enfin je pense pas qu'ils soient inquiétés par la police de la même manière.
Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on entend aussi que cette loi de pénalisation du client, elle passera pas parce que les politiques sont clients de travailleuses du sexe. Sauf qu'aussi, ça fait comme la loi sur le collège passif. De toute façon, les travailleuses du sexe que eux vont voir, elles seront pas inquiétées. Ou alors, si elles le sont, eux ne le seront pas, quoi. Il y aura encore une sélection de qui tombe sous le coup de la loi et qui peut passer à travers.
Oui, puis ça augmente juste le fait que ce soit mal vu. Mais du coup, oui, plus en clandestinité, plus caché, plus hypocrite. Ouais, c'est grave. Et moi, j'avais encore une idée que j'ai perdue. Ah. Ah oui, si, c'était un slogan aussi de la manif que je trouvais bien, qui était « Vous votez, vous couchez avec nous et vous votez contre nous ».
Et toi, tu parlais du strass tout à l'heure, et donc, enfin, il y a aussi des assos qui existent un peu en France. Il n'y en a pas énormément, mais des assos communautaires. Tu peux en parler un petit peu ?
Oui, bah moi, je connais en particulier à Lyon, il y a Cabiria, l'association de santé communautaire, donc qui est à parité avec des personnes prostituées qui font partie de l'association comme. Comme justement personne ressource et tout ça de l'association. Et c'est une stratégie d'alliance un peu avec du personnel de santé et des personnes prostituées. Donc, du coup, c'est tout un travail de réduction des risques autour de la santé.
Et du coup, c'est que des professionnels qui bossent dans ces assos. Il n'y a pas des... Enfin, pour militer pour les droits des prostituées, quand on n'est pas prostituée, est-ce que c'est possible?
Oui, c'est toujours possible de passer, de soutenir et tout ça. Après, c'est un peu en train de s'organiser maintenant, mais c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé qui était plutôt bien aussi à Cabiria. Mm-hmm. C'est le fait que les gens ils soient payés pour tout le travail qu'ils font, et ce qui est un peu... ce qui est aussi possible quand il y a des financements, et là, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Et après, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi des mouvements vraiment militants et qu'il y ait ou même des groupes non mixtes de travailleuses du sexe qui s'organisent, et qu'après, il y ait des liens à des moments de solidarité, de se prêter des locaux, ou de tout ça, Mais c'est vrai que je trouve qu'aussi c'est bien de pas trop tirer sur le côté du bénévolat parce que oui, c'est ça, c'est dans la logique que c'est important que les gens ils soient aussi rémunérés pour tout le travail.
Après, par contre, ça me paraît important de faire preuve de solidarité parce que effectivement, le discours ambiant sur les travailleuses du sexe, c'est ou les pauvres, il faut que tout ça disparaisse et vite on va vous sauver, alors que c'est pas du tout ce qu'elles veulent. Donc, de pouvoir contrecarrer ce discours des associations les plus médiatisées. Bon, je pense par exemple à l'Amicale du Nid, hein, qui est issue de, enfin, qui est d'obédience religieuse. Donc, c'est clair que leur vision de la moralité joue beaucoup, quoi. Mais ça serait bien d'avoir d'autres discours aussi. Alors l'idéal, effectivement, c'est que ce soit les premières concernées qui aient accès à un discours, mais aussi de faire ce relais-là, quoi.
En tout cas, c'est sûr que c'est vraiment extrêmement dommage que les féministes soient autant divisées sur ce sujet et que le courant un peu dominant, ce soit justement de jouer ce jeu de la division entre les femmes. Parce que je trouve que c'est un peu un truc je sais pas, comme si on... Il y avait une espèce de modèle de c'est quoi la femme émancipée moderne et en fait défendue par certains groupes, par certaines idées féministes que moi en tant que féministe je partage pas. Mais qu'on nous dit il y a un certain modèle et qui en fait deviendrait comme un nouveau cadre en fait. Alors que je trouve qu'on a déjà besoin de s'émanciper de beaucoup de cadres et puis ensuite il faut... ne être féminine mais pas trop, soumise mais pas voilée, un peu jolie mais pas pute. Je trouve que ça devient vraiment compliqué comme possibilité d'existence dans une société qui est quand même pas, où je veux dire, c'est vraiment pas évident de juste pouvoir se dire on choisit dans le choix le plus libre et le plus... Enfin, je trouve que c'est toujours des choix qui sont pris dans un ensemble de contraintes et que les solidarités féministes, c'est ce qu'il y a. C'est vraiment important pour justement lutter contre tout un système qui tend à diviser.
Surtout qu'on nous renvoie beaucoup à notre condition d'objet sexuel, même si on nous dit que ben non, c'est plus trop ça. Et par contre, dès qu'on veut reprendre un peu le pouvoir sur cette condition, demander le cadrer, demander une rémunération pour ça, et ben ça passe plus, quoi.
Mais c'est parce qu'à ce moment-là, on devient sujet sexuel et non plus objet. Et là, non, c'est beaucoup trop.
Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais nous faire partager ?
Eh ben, je crois que c'est bon.
En tout cas, c'est vraiment super sympa d'avoir appelé. C'était très, très intéressant d'avoir aussi des témoignages de comment se passent les rencontres de professionnels.
Ben, merci beaucoup à vous.
Eh ben, bonne fin de soirée. On te repasse mode au standard. Merci.
Au revoir. Eh ben, c'était Laura qui nous a raconté pas mal de choses sur les assises de la prostitution. C'est les cinquièmes, il me semble.
Ouais,
il y en a une fois par an qui ont eu lieu à Lyon cette année. Je ne sais pas si elles ont toujours lieu à Lyon ou pas. En tout cas, elles ont lieu à Lyon cette année. Et voilà.
Et puis, donc, l'autre événement dont elle parlait, je ne sais pas parce qu'on est allé un peu vite, c'est la pute pride. Donc, fierté d'être pute. Bon, allez.
On s'écoute une petite musique, hein.
On rappelle et le numéro de téléphone et la question quiz, parce que peut-être vous avez la réponse, vous avez essayé de nous appeler et c'était occupé, donc il va bientôt être temps d'essayer de rappeler. Donc, la question quiz est...
C'est qu'est-ce que veut dire le G dans le point G ?
Tout à fait.
Mais je tenais à vous préciser, si vous êtes là devant votre téléphone à vous dire mais pourquoi c'est occupé, pourquoi ça marche pas, c'est parce qu'en fait quand il y a quelqu'un qui téléphone et en l'occurrence Laura était avec nous en ligne, en fait bah, ça sonne occupé parce qu'à Kaléidoscope il n'y a qu'une ligne. Mais à partir de maintenant vous pouvez rappeler, donc il n'y a pas de problème.
Donc au 04 76 09 09 09.
Et donc on s'écoute une petite chanson de Nancy Sinatra, Love is Strange, ça va vous rappeler quelques souvenirs.
You never wanna quit. cola after you had it. You're in an awful fix.
Fancy
people don't understand.
Oh no.
They think love is money in the hand.
Oh yeah.
Your sweet love better than a kiss.
Uh-huh.
When you leave me, sweet kisses I miss.
Go.
Oh. Nancy.
Yes, Lee.
I want to know, how do you call your lover?
I say, come here, lover.
And if he doesn't answer?
Then I say, get on in here, lover.
And if he still doesn't answer?
Well, then, baby. Whoa, baby.
That'll get it.
My sweet baby. You're the one. How's that?
I understand.
Hey, Lee.
Yeah, Nancy.
I want to know how you call your lover.
Well, I say, hey, lover girl.
And what if she doesn't answer?
Well, I say, hey, lover girl.
And what if she still doesn't answer?
I say, you better get on in here. I'm gonna start without you.
Ooh.
Baby. Oh, baby.
Uh-huh.
My sweet baby.
Sock it to you.
You're the one. Got
Are
it.
You ready?
Baby. Oh, baby. My sweet baby. You're the one.
Two, three, four, five, six, seven. Now.
Baby.
Et oui, vous êtes toujours sur Calibre, sur Radio Kaléidoscope 97 FM, la libre antenne qui aborde, bah oui, par exemple, la prostitution, bah parce que c'est quand même un sujet Calibre, c'est le travail du sexe, quelle place ça a dans la société, qu'est-ce qui se passe autour de ça et tout ça.
Quelle représentation on a de ce que doit être le sexe.
Et... Voilà, et puis en même temps, bah, on parle aussi de corps, d'anatomie, du plaisir et du point G. Et on a un appel, c'est Marjo qui nous appelle. Bonsoir Marjo.
Bonsoir.
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 Bah, vous m'entendez bien?
Ouais.
Ouais, tu grésilles un peu, mais ça va.
Ah, c'est la voiture. Je suis désolée, je vous appelle sans avoir écouté l'émission, parce que je vous écoute en différé.
Ok.
Sur mon iPod, podcast, etc.
Ouais.
Donc, je ne sais pas de quoi vous parliez, mais ça avait l'air intéressant. J'ai entendu point G, là.
Ouais.
On n'avait pas démarré le point G encore.
D'accord.
Il y a la question quiz, peut-être tu veux y répondre si tu...
Ah bah, bien sûr, personne a trouvé, c'est celle de la semaine dernière ou pas?
Non, c'est la nouvelle.
Ah, dommage.
C'est celle du point G, c'est, qu'est-ce que veut dire, ça correspond à quoi le G dans le point G?
Oh, j'aurais visé gravité, mais c'est pas sûr. Hein.
Bon, c'est pas ça, ça laissera l'opportunité à une autre personne d'appeler plus tard.
Mais raconte-nous ce pourquoi tu nous appelles.
Moi j'appelle parce que j'aime beaucoup votre émission, que je les écoute toutes. Et j'ai particulièrement aimé la dernière sur les parce que ça parlait des hormones. Et bon, je réfléchis pas mal à la question des genres, parce que bon, je suis garçon manqué depuis que je suis petite.
Un garçon manqué?
Ouais. Et j'en ai marre qu'on me dise que je suis pour une femme. Enfin bon, qu'est-ce que c'est une femme? Tout ça, ça m'intéresse vachement. Et les hormones et les femmes qui prennent de la testostérone à l'insulte en plein gré parce que leur partenaire en prenait. Pour ceux qui...
Ah oui, ça y est, je me rappelle.
Dernière, et ben, je trouve ça passionnant, parce que ça veut dire que, au-delà des gens qui veulent franchement opérer une transition de sexe, et ben, ça ajoute un peu de l'eau à mon moulin, à moi qui pense que les sexes sont pas si différents, et que là, finalement, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un peu une grosse histoire d'hormones, quoi.
Ouais.
Et bon, les hormones...
Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu juste l'émission de la semaine dernière, donc je vais résumer en deux mots. C'était l'équipe de la semaine dernière parlait de possibilités de contraception masculine et entre autres, il y avait un gel à la testostérone à s'appliquer pour les gars, hein, pour qu'ils agissent sur les hormones. Et était évoquée l'anecdote de pourquoi ça ne marchait pas, parce que dans une relation hétéro, quand l'anal se coulait, voilà, ça passait.
Ouais.
Et du coup, diffusion d'hormones mâles dans un corps femelle.
Waouh. Faudrait que j'essaye, on ne sait pas.
Sachant qu'en plus, tu dis que ça va dans le sens de, effectivement, c'est qu'une histoire d'hormones, enfin, c'est en partie une histoire d'hormones, la conception qu'on a du monde représentée en deux bien distinctes.
Voilà, soit l'un, soit l'autre, c'est tout différent, tout ça, bon, c'est pas vrai, quoi.
Mais en l'occurrence, si on parle de testostérone, des femmes qui sont catégorisées comme femmes peuvent aussi avoir de la testostérone, enfin produire naturellement de la testostérone. Et ouais, en fait, c'est des choses qu'on sait rarement parce que en fait, on fait très peu de bilans hormonaux, sauf à avoir des problèmes de santé ou je sais pas quoi. Mais en vrai, même cette
vous l'apprenez.
En tout cas, ce que je voulais dire par là, c'est que même si on dit, c'est bien clair la distinction entre les hommes et les hommes et les femmes. Les hommes, ils ont de la testostérone, les filles, elles ont les œstrogènes. Ben en fait, même ça, c'est assez erroné, quoi.
Ouais. Ouais, j'avais vu quelque chose aussi sur les gènes XX et XY, mais j'ai pas la source de cette information et ce serait bien que vous trouviez quelque chose. Enfin, ouais.
Moi j'avais lu aussi un truc, mais ça me semblait complexe à comprendre, mais en gros c'est ça, c'est qu'il n'y avait pas vraiment XX et XY, il y avait plein d'autres configs, en fait un espèce de continuum avec plein de configurations, mais que pour simplifier, on disait c'est soit XX, soit XY. Quoi.
Voilà, on généralise, comme il y a quand même une grosse majorité des gens qui sont bien différenciés, on se dit qu'il n'y a que deux genres, mais bon, à creuser quoi.
Ouais, en fait, moi, j'ai un bouquin que j'ai pas encore lu, mais que j'aimerais bien, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est de Julien Picard, qui est sur les intersexes et qui parle en fait de ces, de toutes les personnes qui, pour une raison d'hormones, de gènes, d'organes génitaux et tout ça, en fait, sont pas dans la catégorie homme ou femme, quoi. Et j'ai bien hâte de lire et d'en parler à Calibre.
Et de mettre le lien sur le site pour qu'on puisse...
Ça s'appelle Ni homme ni femme, parce qu'à la technique, il y a aussi des gens qui sont bien au courant. Ça s'appelle Ni homme ni femme, enquête sur l'intersexuation. Et c'est de Julien Picard. Mais pour le moment, moi, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas en dire ni du bien ni du mal. De quoi ?
S'il y en a qui connaissent, ils peuvent téléphoner pour nous renseigner.
Exactement, si tu veux.
J'ai bien écouté. Hein.
Non, mais c'est vrai que cette question de genre liée à des caractéristiques biologiques qu'on veut mettre dans des catégories binaires, c'est quelque chose qui est très prégnant.
On a perdu Marjo.
Bon, du coup, je continue. C'est quelque chose qui est très prégnant dans notre société. Hein, c'est-à-dire, on est soit homme, soit femme. Et en fait, c'est jamais totalement les caractéristiques dans sexe biologique. Enfin, il y a toujours des mélanges et au point de vue chromosome, et au point de vue hormones, et au point de vue physiologique aussi, physique, quoi, même en termes de sexe. Les sexes sont super différents. Il y a, comme tu disais, il y a je sais plus combien de naissances. Alors, je vais pas dire de chiffres parce que je vais dire une bêtise parce que je les ai plus en tête, mais de personnes qui naissent avec un sexe qui est entre les deux ou qui pourrait être les deux. Ça pourrait être un grand clitoris ou un pénis un peu plus petit que la norme mesurable, parce qu'en fait ça part d'un même, dans le fœtus ça part d'une même chose et ça se développe en fait soit en clito soit en pénis, et que du coup en fait bien souvent les médecins ne laissent même pas le choix aux parents de décider de laisser le bébé comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont directement couper et dire que c'est une petite fille. Ou dans le meilleur des cas, laisser le choix aux parents. Et dans ce cas, les parents qui flippent avec tout ce qu'on leur a... Enfin, avec tout leur imaginaire et puis la pression médicale vont aussi faire un choix souvent d'opération. Et il y a très peu de personnes qui laissent l'enfant avec le sexe tel qu'il est né et qui lui laissent la décision d'opérer ou pas quand lui ou elle décide de le faire, quoi.
Ou en fait, le problème aussi, c'est que la société, elle est tellement binaire que c'est hyper difficile pour ces personnes-là de enfin, je veux dire, dès qu'on est, on nous met dans une case F ou M. Enfin, c'est vraiment juste horrible, quoi. Enfin. Mm. Et puis c'est, enfin je veux dire, c'est pas juste horrible pour les personnes qui seraient en dehors de ces catégories. C'est aussi horrible pour les personnes qui sont dans ces catégories, parce qu'en fait ces catégories, elles sont enfermantes. Enfin je veux dire, Marjo nous disait, moi depuis toujours, je suis un garçon manqué, depuis que je suis toute petite. Alors du coup, ben on comprend par là même que c'est une personne qui est considérée comme fille, mais que ben en fait les comportements qu'elle souhaitait avoir, enfin je fais une hypothèse, hein, mais c'est en tout cas c'est ce qu'on met derrière garçon manqué. Les comportements qu'elle voulait avoir, son apparence et tout ça, ben en fait c'était que c'était pas vraiment une fille, mais que c'était pas vraiment non plus un garçon, quoi. Mmh. Donc enfin c'est ouais.
Ouais. À quand la possibilité d'être l'individu que l'on souhaite sans devoir s'accoler à un genre, quoi. Et donc, effectivement, tout ce qui va avec.
Eh ben, travaillons-y ensemble, vous, nous, voilà, quoi.
Il y a quelques personnes, hein, quand même, qui font des transitions, soit qui sont nées filles ou nées garçons, et qui... Alors, il y a des personnes qui changent de genre, c'est-à-dire qui naît fille, décide d'être homme, et, ou naît garçon, décide d'être femme, avec ou pas des opérations physiques. Mais il y a aussi des personnes qui décident de partir de leur genre d'attribution lié au sexe biologique et de transitionner vers quelque chose qu'on appelle X. Donc, c'est-à-dire qu'ils décident volontairement de ne pas rentrer dans la catégorie mâle ou femelle, mais de développer une autre identité. Alors, c'est compliqué, c'est, au point de vue légal, je pense que c'est pas reconnu. Enfin, je sais pas, hein, je connais pas trop, mais que c'est pas reconnu. Dans les yeux des gens aussi, qui te demandent toujours si t'es une fille ou un garçon. Enfin, bon, c'est compliqué, mais il y a des personnes qui font ce choix-là.
Et alors là, Myriam, tu as parlé de sexe et de genre et tu as fait la distinction, mais peut-être tu pourrais expliquer c'est quoi la différence.
Ouais, alors...
Je peux t'aider un peu, hein,
ouais,
si tu veux. Hein.
Pour moi, le sexe, c'est le sexe biologique, c'est-à-dire le fait d'avoir, en gros, un vagin, vulve, enfin bon, un sexe féminin.
Ou en tout cas apparenté.
Voilà, qui ressemble à ça, ou un sexe masculin, donc plutôt pénis. Voilà.
Et le genre ?
Et le genre, eh ben, c'est tout ce qu'on attribue comme caractéristique au sexe biologique, c'est-à-dire comment on va construire une petite fille en femme avec, alors bon, je vais dire des trucs un peu bateaux, c'est peut-être plus compliqué que ça, mais quand même, quoi, avec, eh ben, voilà, une femme doit être douce, doit à un moment avoir envie d'avoir des enfants, doit être dans le soin des autres, doit faire des métiers plutôt littéraires, en tout cas, tout marche pour que quand on est petite, on ait des poupées plutôt que des voitures, des pages roses plutôt que des pages bleues, voilà. Donc c'est en fait à partir d'une différence physique, mais ça pourrait être par exemple la couleur des yeux, voilà, on pourrait décider que les yeux bleus, ils bosseraient plutôt dans le BTP, et les yeux marrons, ils bosseraient plutôt derrière des ordinateurs. Voilà.
Et puis que ça, en plus, c'est parce que tu as donné des caractéristiques du genre qui sont dans les comportements, enfin... Moi, je pense qu'il y a aussi dans les apparences, et c'est pas simplement les vêtements, c'est aussi comment la morphologie, on va la travailler en fait de manière à ce que on soit, enfin, je veux dire, on va faire peu de musculation quand on est une fille pour pas avoir l'air d'un garçon. Enfin, il y a tout ce truc aussi qu'on peut aussi, que la société nous pousse à transformer notre corps suivant si on est... Enfin, faire des régimes si on est une fille.
En fait, le genre, ça serait un peu... Et merci de la technique, encore une fois. Hein, ça serait un peu le sexe social. Voilà, ouais. Et non pas le sexe biologique. Je pense à quand on parlait intersexe, je sais qu'il y a plein de documentaires vachement intéressants de personnes qui témoignent là-dessus. Mais là, j'arrive à me rappeler que d'une fiction, d'un film qui s'appelle XXY et qui est une personne justement qui a une apparence de fille avec un pénis. Une adolescente, je crois, qui habite en Uruguay, voilà, en Amérique du Sud, quelque part. Voilà, je ne sais plus quel est le réalisateur, mais on vous retrouvera tout ça.
On vous mettra la référence sur notre site. Voilà. Bon, ben voilà, il y a Marjo qui nous a rappelé rapidement pour nous dire merci, puis faire un petit bisou à toute l'équipe.
Et ben merci à toi, Marjo, quand tu réécouteras cette émission plus tard.
Indifféré.
Sur ton machin pod.
En tout cas, c'était très chouette d'avoir appelé puis d'avoir abordé ce sujet là. Qui, voilà, c'était bien.
Voilà.
On s'écoute une petite musique.
Absolument. C'est quoi ? C'est Le Tigre, Hot Topic. Voilà, sur Calibre, enfin c'était Calibre, hein, c'était la musique de Calibre. Donc nous avons eu quelques appels pour parler de sujets, mais personne n'a répondu à notre question quiz qui était, parce que maintenant on va vous dévoiler la réponse, on va pas vous laisser dans cet état d'attente interminable. Hein, donc si on a une réponse quand même, qu'est-ce que le G dans le point G ? Ça serait le G pour gravité. Eh bien non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors Mélanie, est-ce que tu veux nous éclairer ?
Alors en fait, le G du point G, ça fait référence à un monsieur, un docteur même, qui s'appelait Ernest Greifenberg. Voilà, et qui était allemand. Et alors en fait, c'est pas lui qui a... Enfin si, c'est un peu lui qui a découvert le point G, mais il n'a pas lui-même appelé le point G le point G. C'est des sexothérapeutes dans les années 80 qui, à partir des travaux que lui, il avait fait bien longtemps avant, ont décidé de l'appeler point G en hommage à son travail. Donc voilà, juste quelques mots sur c'était qui ce bonhomme. En gros, c'est quelqu'un qui... c'est un Allemand qui va émigrer aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, quoi, et qui va travailler sur la contraception et qui va inventer le stérilet, le dispositif intra-utérin. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus de détails sur sous quelle forme et tout ça, ou si c'est le seul qui avait fait cette découverte. En tout cas,
je crois que c'est le premier qui a étudié la question du plaisir féminin scientifiquement, quoi, dans
voilà.
Les années 50.
Voilà, bon là c'était la contraception, et puis après il a commencé à étudier la question du plaisir féminin, et c'est là que à l'issue de discussions avec des patientes, il aurait retrouvé que plusieurs fois des patientes indiqueraient une zone à l'intérieur du vagin qui serait une zone de plaisir, quoi. Et donc il n'avait pas forcément trouvé beaucoup plus que ça. Mais et après, il a fait d'autres études sur le phénomène d'éjaculation féminine et tout ça. En tout cas, c'est un peu un des premiers qui a travaillé sur le plaisir féminin. Et pas un des derniers, mais bon, en attendant, après lui, il n'y en a pas eu des milliards d'autres. Mmh. Jusqu'à il y a peut-être assez peu, depuis les années 90, on va dire.
Ouais.
Je dis qu'il a travaillé sur le plaisir féminin d'un point de vue anatomique. Et
pas
physique,
cérébral,
pas
quoi.
Cérébral, psychologique et tout ça, parce que ça, c'est aussi sont aussi des parties prenantes du plaisir masculin et féminin. Mais bon, pour tout vous dévoiler, on va pas vous dévoiler tout sur le point G ce soir.
Bah non, parce que c'est trop tard.
Parce que c'est trop
parce
tard.
Parce que c'est génial, on a eu des appels
et qu'on a eu des discussions passionnantes. Et mais du coup, on en parlera une prochaine fois.
Ouais.
Et comme ça, on n'aura pas cette même question quiz, du coup, vous ne pourrez pas répondre. Mais, mais voilà, donc à la prochaine fois pour cette question-là. Mais en attendant, on va donner quelques petits points d'actualité et avant de vous dire au revoir.
Voilà. Alors moi, je suis tombée, là, on nous a fait passer un lien vers une pétition qui circule. Et en fait, je vais vous la lire parce qu'elle est géniale. Et je l'adore. Voilà. Ça s'appelle IVG, donc interruption volontaire de grossesse. 2. Je vais bien, merci. Par les filles des 343 salopes.
Alors peut-être on peut dire c'est qui vite fait les 343 salopes.
Ouais. Ou alors c'est une question quiz pour plus tard. Non, c'est pas vrai. C'est alors je sais plus. Enfin bref, c'est des nanas qui ont signé un espèce de manifeste quand c'était la discussion avant que la loi Veil passe, donc pour tolérer l'avortement, et qui ont donc publiquement avoué, parce qu'à l'époque c'était vraiment ça, avoué qu'elles avaient avorté. Et c'est une des mobilisations, on va dire, qui ont permis et qui ont abouti au fait que la loi Veil autorise l'avortement en 75 puis 79.
Voilà, donc ouais. C'était un manifeste qui était paru dans la presse et où il y avait plein de personnes connues, des actrices, tout ça, qui voilà, ça avait fait un peu scandale.
Voilà, donc cette pétition-là ou cet appel-là, c'est par les filles des 343 salopes. Plus de 200 femmes avortent chaque année en France. Cet acte pratiqué sous contrôle médical est des plus simples. Pourtant, le parcours des femmes qui avortent, lui, l'est de moins en moins. Le droit à l'IVG est menacé, en pratique par la casse méthodique du service public hospitalier et dans les discours, car l'avortement est régulièrement présenté comme un drame dont on ne se remet pas, un traumatisme systématique. Ces discours sur l'avortement sont des slogans éloignés de ce que vivent la grande majorité des femmes. Ils ont pour but de les effrayer et de les culpabiliser. Nous en avons marre que l'on nous dicte ce que nous devons penser et ressentir. Depuis le vote de la loi Veil en 1975, a-t-on cessé de prédire le pire aux femmes qui décident d'avorter ? Nous en avons assez de cette forme de maltraitance politique, médiatique, médicale. Avorter est notre droit. Avorter est notre décision. Cette décision doit être respectée. Nous ne sommes pas des idiotes ou des inconséquentes. Nous n'avons pas à nous sentir coupables, honteuses ou forcément malheureuses. Nous revendiquons le droit d'avorter la tête haute. Parce que défendre le droit à l'avortement ne doit pas se limiter à quémander des miettes de tolérance ou un allongement de la corde autour du piquet. Nous disons haut et fort que l'avortement est notre liberté et non un drame.
Nous déclarons avoir avorté et n'avoir aucun regret. Nous allons très bien. Nous réclamons des moyens pour que le droit à l'IVG soit enfin respecté. Nous réclamons son accès inconditionnel et gratuit, mais également la liberté de faire ce que nous voulons de notre corps sans que l'on nous dise comment nous devons nous sentir. Voilà, donc c'est un appel que vous retrouvez sur Internet. Le site, c'est http://jevaisbienmerci.net.
Mais enfin, du travail pour des déclarations qui vont à l'encontre de cette image comme quoi l'IVG est forcément un drame.
Et qu'il faudrait absolument arriver à un nombre d'avortements zéro, quoi. Alors que non, c'est un choix de contraception, enfin de maîtrise de sa fécondité, comme un autre qui, bon, on va pas rentrer dans le détail là, hein, mais voir médicalement, c'est une des méthodes contraceptives ou de maîtrise de la fécondité, peut-être les moins, qui marquent le moins. Mais bon, on en rediscutera une prochaine fois, je veux pas non plus avancer des choses comme ça sans pouvoir m'expliquer. Même si je le fais.
Bon, et puis sinon on va vous donner deux petits événements qui vont avoir lieu cette prochaine semaine. Ces deux événements qui ont lieu tous les deux à Antigone, 22 rue des Violettes. Il y a souvent des événements assez chouettes là-bas qui se passent, qu'on a envie de vous relayer à Calibre. Donc le premier, c'est demain. Vendredi 8 avril à 20h, et c'est une discussion sur les luttes des femmes africaines. En fait, c'est deux Sénégalaises, une qui habite au Sénégal et l'autre qui habite à Grenoble, qui étaient présentes au Forum social mondial à Dakar et qui ont travaillé, qui ont participé à des ateliers autour des luttes des femmes en Afrique, et du coup qui veulent... qui vont raconter ce qui s'est passé lors de ces ateliers et qui, bien sûr, font des liens entre le féminisme des africaines et le féminisme qu'on peut trouver en France, quoi.
Oui, enfin, en tout cas, des actions féministes en Afrique et puis des actions féministes en France, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler d'un féminisme en France comme d'un féminisme.
Merci, Mimi, de m'avoir repris sur ma généralisation complètement outrancière. On dit ça, outrancière ? Bref, vous avez compris, je me suis foirée et Mimi a repris, c'est très bien. Et le deuxième événement, c'est le vendredi d'après, le vendredi 15 avril à 20h aussi. Et c'est une conférence-discussion avec un laboratoire de recherche universitaire qui s'appelle le Cortex qui va un peu essayer de montrer comment l'idée de nature serait souvent au service d'idées conservatrices, du racisme, du sexisme, voilà.
C'est-à-dire ce qu'on estime qui est naturel ou de l'ordre du naturel, c'est ça ?
Voilà, exactement.
Voilà ce qui rejoint un peu tout à l'heure la question dont on parlait, des sexes biologiques, est-ce que c'est si binaire ou pas ? Alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils vont aborder la chose, hein, mais en tout cas, ça touche à plein de questions importantes pour nos corps, pour nos choix de vie, la question des enfants, plein de choses importantes. Donc voilà, je ne sais pas comment cette conférence sera abordée, mais en tout cas, le sujet mérite qu'on s'y penche.
Bon, peut-être on peut rappeler l'adresse mail parce qu'on ne l'a pas fait ce soir.
Tout à fait.
Et du coup, si vous voulez nous écrire.
Voilà, pour réagir à des choses qu'on dirait ou pour nous lancer sur d'autres sujets si vous ne vous sentez pas d'appeler. Donc c'est calibre, donc cas-libre au pluriel, @poivron au singulier. Org.
Voilà, on était le 7 avril et.
À la technique mode Émilie. Au micro, Mélanie et Myriam. Et puis, à la semaine prochaine, bonne soirée. Voilà.
Salut.
Salut.
Corps.
Amour. Sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous.
Bon, on était le 7 avril, en vrai.
76 09 09 09.